Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. » Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Amen.
Merci Matthieu. Est-ce que Dieu parle ? Est-ce qu'il nous parle ? Est-ce qu'il vous parle ? Sa parole, en tous les cas, le dit fermement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dès le premier chapitre, nous dit qu'il a parlé de tout temps, de différentes manières, à chacun de nous, et qu'en ces derniers temps, il nous parle par son Fils. Ce qui est clair, c'est qu'à travers ce chapitre que nous venons de lire, nous voyons Dieu parler par des moyens extraordinaires qui peuvent nous surprendre. Mais ce n'est pas la première fois. À maintes reprises, à travers les Écritures, Dieu s'est révélé de manière extraordinaire à Abraham, à Job. Je lis Job 33, 14. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle. Et la manière dont il parle, dont il vous parlera peut-être, nous surprendra et vous surprendra encore. On ne choisit pas la manière dont Dieu parle. Il est omniscient, omnipotent, il peut faire tout en tout temps comme il veut. Il est tout-puissant, mais il parle. Alors pourquoi ? Le texte que nous avons lu, on y reviendra, nous montre très clairement que dans les deux situations que nous avons vues, que ce soit pour Corneille ou que ce soit pour Pierre, la manière dont il a parlé avait une finalité, un but très précis. Il nous reste alors à nous conformer à ce qu'il nous dit quand il nous parle, à lui obéir, à l'écouter. Le passage que nous avons lu le montre très clairement. Et à travers ce texte, j'aimerais que nous nous arrêtions sur trois étapes. Tout d'abord, deux hommes et deux visions tout à fait différentes. Ensuite, nous verrons l'interprétation que l'on peut donner à chacune de ces révélations extraordinaires et les conséquences de ces deux visions. Et dans un troisième temps, bien, nous en tirerons un enseignement personnel pour chacun de nous. Deux hommes, deux visions différentes. Et tout d'abord, Corneille. Corneille nous est présenté comme étant un centenier, un officier romain, responsable d'une cohorte dite italienne, c'est-à-dire qu'il avait la responsabilité d'une centaine d'hommes, dans une unité qui en comportait 600. J'ai regardé un peu dans un dictionnaire biblique ce qu'il était dit des centeniers à travers le Nouveau Testament. Et ce qui est surprenant, ce qui m'a surpris, c'est que chaque fois qu'un centenier est évoqué, il l'est toujours en ayant de la part de Dieu sur lui un regard favorable. Ce qui veut dire que Dieu ne délaisse pas ceux qui ne sont pas son peuple ou ceux qu'il s'est choisi. Il y a bien des références, Matthieu 8, 5 à 10, 27, 54, Marc 5, 44 et 45, pour ceux qui veulent des références, acte 22. Ce texte ne fait pas exception. Voyez la manière dont le texte nous parle de Corneille, un homme juste, un homme craignant Dieu, un homme qui n'hésite pas à donner de ses biens aux pauvres, à la synagogue. Et plus encore, cet homme ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il ne l'avait pas rejoint, ça n'était pas un prosélyte, c'est-à-dire quelqu'un qui avait embrassé la religion juive en allant jusqu'à se faire circoncire. Non. C'était un homme qui était totalement étranger au peuple de Dieu, mais un homme qui craignait Dieu, qui l'aimait, qui l'adorait. Sa vision maintenant. La mention de l'heure, il nous est parlé de la neuvième heure. C'est probablement une heure qui correspond à un temps pendant lequel le peuple d'Israël, les Juifs, d'une manière générale, priaient Dieu. Si tel est le cas, cela tendrait à prouver que lorsque le Seigneur se révéla à Corneille, cet homme était en train de prier. Neuvième heure, ce centenier priait. Et il est effrayé quand il voit dans cette vision un ange lui apparaître, pour lequel il a beaucoup de déférence. Il l'appelle Seigneur. De la part de quelqu'un qui a autorité, comme l'avait Corneille, sur tous ses hommes de sa troupe, ça montre qu'il avait du respect. Du respect pour cet homme qu'il ne connaissait pas, qu'il voit en vision, mais qui va lui parler. Et la vision se termine par ces paroles surprenantes, mais qui sont à la fois une reconnaissance de ce que Corneille est devant Dieu et ce que Dieu, à travers cette vision, attend de lui. Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Ça, c'est un petit peu l'hommage que l'ange adresse à Corneille. Et l'ordre maintenant, envoie donc maintenant à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre, logé chez Simon le tanneur, dont la maison est près de la mer. Alors le texte ne nous donne pas d'informations supplémentaires concernant Corneille. Connaissait-il Jésus ? Avait-il entendu parler de lui ? Peut-être. C'est quelque temps après que le ministère du Seigneur, sa mort et sa résurrection, aient été accomplis. Toujours est-il que on va voir qu'il va se conformer strictement et immédiatement, un bon militaire, à tout ce qui lui a été demandé. La vision de Pierre maintenant. Ah, l'homme. Vous connaissez tout aussi bien moi que moi Pierre. À travers le texte nombreux des évangiles, le personnage de Pierre nous est familier. C'est l'un des premiers disciples du Seigneur, appelé par Jésus lui-même, ainsi que André son frère, Jacques et Jean. C'était un pêcheur. Mais Pierre, c'est aussi un homme impulsif, entêté, fier, orgueilleux. Un homme que Jésus lui-même a dû reprendre à plusieurs reprises. Quand Pierre était persuadé que la vision qu'il avait eue du ministère du Seigneur n'était pas celle d'un homme qui devait mourir sur la croix. Et Jésus n'a pas hésité à lui dire que ce n'était pas du tout ce qui allait lui arriver. Marc 8, 31-33. C'était aussi un homme sûr de son fait. Rappelez-vous, quelques heures avant l'arrestation du Seigneur, il proclamait haut et fort que si tous allaient l'abandonner, lui ne le ferait jamais. Nous savons ce qu'il advint. Et là, il se trouve devant un fait étrange, une vision extraordinaire qui a lieu le lendemain de celle de Corneille. On sait que Pierre était un homme assidu dans la prière. En tant que bon juif, il priait matin et soir, et peut-être même dans la journée. Toujours est-il que, à l'heure où cette vision lui est accordée, c'est l'heure de midi, il a faim. Il est sur la terrasse. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un lien avec la profession de cet homme chez qui il se trouve, un tanneur. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez un tanneur ou une personne qui transforme les peaux ou les animaux pour en faire du cuir ou en faire un animal que l'on peut mettre en décoration. C'est un lieu où les odeurs sont particulièrement désagréables, pour ne pas dire nauséabondes. Peut-être que Pierre préférait se retirer un peu à l'écart de cela. Toujours est-il qu'il est sur cette terrasse et qu'une vision étrange lui apparaît. une nappe avec toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles. Verset 12. Des animaux qui, aux yeux du peuple juif et de la loi, étaient considérés comme impurs. Et une voix venant du ciel lui fait dire directement ceci, « Pierre, tue et mange. » Et Pierre, là encore, trois fois, comme lorsqu'il a renié le Seigneur, refuse. « Mais non, c'est impossible. Je ne peux pas manger quelque chose qui est impur à tes yeux, Seigneur. » Et Dieu de dire, « Ne considère pas comme impur ou souillé ce que moi, je considère comme saint. » Devant le refus de Pierre, cette voix qui se répète, « Ne considère pas comme souillé ce que Dieu regarde comme pur. » La question que l'on peut se poser, qu'est-ce que Dieu avait déclaré pur ? Nombreux sont ceux qui, en lisant ce texte, pensent que cette vision était un signe de Dieu déclarant que tous les animaux présents sur cette nappe pouvaient être purs et aptes à la consommation. Cette interprétation comporte cependant quelques failles, et le texte que l'on va voir un peu plus loin n'est pas ce que Pierre a compris. Nous reviendrons bientôt sur la réelle signification de cette vision. Voyons les interprétations maintenant de ces deux visions. Tout d'abord pour Corneille. Quelle était, dans la pensée de Corneille, l'attente qu'il avait de tout ce qu'il avait pu entendre concernant cette nouvelle religion ou ce Jésus qui était proclamé? Il nous est dit que c'était un homme craignant Dieu, prêt à toute heure à le prier, un homme qui se dévouait corps et âme pour les autres, pas que pour les militaires dont il faisait partie, pour le peuple d'Israël en lui-même. Et quand l'ange lui apparaît, Pierre est en prière. Tout de suite, il a saisi que ce qui était dit de lui et cet ordre qui lui était donné avait un lien avec ce qu'il recherchait. C'est manifestement un homme qui cherchait Dieu, qui voulait en connaître davantage. Ce qu'il avait entendu des uns ou des autres par ouï-dire ne lui suffisait pas. Il en voulait plus. Il ne connaissait probablement pas Pierre. Mais lorsqu'on lui dit « Va, envoie des hommes pour retrouver ce Simon », il s'exécute immédiatement. Et ce n'est pas avec n'importe quelle personne qu'il va exécuter l'ordre qui lui a été transmis. Il nous dit qu'il a pris trois hommes de sa maison, un militaire et deux serviteurs. Sans aucun doute, des gens qui le voyaient vivre, qui connaissaient son dévouement pour les choses de Dieu, son amour pour Dieu. Et quand on entend de la bouche d'un responsable comme il l'était, cet ordre, suite à une vision extraordinaire qui lui a été faite, ces hommes partent d'emblée. Ils n'ont pas réfléchi. Ils se sont exécutés. Ils ont obéi. Le comportement de Pierre maintenant est tout à fait différent. Il entend cette voix et sa première réponse est « Non, Seigneur ». Non, Seigneur. Un non significatif. Quand on connaît Pierre, c'est ça et c'est rien d'autre. Jésus, à maintes reprises, nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, a dû reprendre ce serviteur, cet apôtre. Je reprends quelques textes. Matthieu 16, 23. Pierre ayant pris à part, Jésus se mit à le reprendre et lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ensuite, un épisode que nous avons lu il n'y a pas très longtemps, dans Jean, lorsque Jésus se trouve dans cette maison et qu'il va laver les pieds de ses disciples. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. C'est un non catégorique. Et Jésus lui dit, pour amener Pierre à bien prendre attention à ce qu'il lui est dit. J'ai répondu, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Exclusion. Et encore celle que nous avons dû déjà tout à l'heure évoquer, celle de la chute. Quand Pierre répond, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et j'ai dû lui répondre, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Eh bien, la vision de cette nappe, elle va dans le même sens que tout ce que Pierre a vécu antérieurement. Je ne peux pas croire que tu me demandes de prendre ces animaux, de les manger, de les tuer. Pierre savait que c'était interdit d'après la loi, Lévitique 11. Mais alors, peut-être y avait-il dans ce lot quelques animaux qui n'étaient pas impurs. Pierre comprit que l'ordre qui lui était donné incluait tous les animaux présents. Alors, cette interprétation que nous avons évoquée tout à l'heure concernant le fait de prendre et de manger quelque aliment que ce soit, même ceux qui étaient interdits par la loi, je ne la retiens pas. Deux éléments nous permettent de réaliser comment, finalement, en réfléchissant et en se laissant conduire par l'esprit, Pierre a compris cette vision. Tout d'abord, l'arrivée de trois hommes. Alors qu'il se demandait encore, c'est le texte qui nous le dit, ce que cette vision pouvait bien signifier, voici les trois hommes envoyés de chez Corneille arrivent chez lui à Jaffa. Il nous a dit ceci, c'est très important dans le texte. Alors, l'Esprit de Dieu lui révéla le sens de la vision. Voilà trois hommes qui te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux, sans faire aucune difficulté, c'est moi qui les envoie. Le double lien, l'Esprit qui parle et un ordre donné. Un lien donc entre la vision de Pierre et l'arrivée de ces trois hommes. L'autre phrase qui nous permet de réaliser que Pierre a parfaitement compris le sens de cette vision. Nous le voyons dès qu'il arrive dans la maison de Corneille. C'est surprenant. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Verset 28. Où Pierre a-t-il appris cela ? Mystère. Ces paroles du verset 28 ne se trouvent nulle part dans les Écritures. C'est la tradition juive du 1er siècle qui imposait comme mesure de sélection, d'austérité pour les Juifs de ne pas se mêler aux étrangers. Ça peut être suggéré par certains textes du Nouveau Testament. J'en ai relevé deux. Jean 18, 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas, c'est le Sanhédrin, les hauts responsables. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Premier texte qui pourrait laisser croire que les Juifs ne devaient pas se mêler aux païens, ni entrer chez eux, ni manger avec eux. Deuxième texte. C'est dans Galates, c'est Paul qui parle et qui dit « Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » En effet, avant l'arrivée de quelques personnages de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Ce qui semble évident, et ça, on le revoit encore aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de Juifs, à l'époque et aujourd'hui, la tradition a plus d'importance que la parole écrite. C'est vrai aussi dans d'autres religions, y compris la religion catholique. Jusqu'à ce qu'il ait reçu cette vision Et son interprétation, Pierre était intransigeant. Les païens, c'est pas pour moi. Alors, on peut se poser une question. S'il en était ainsi, comment les païens pouvaient-ils entrer en contact avec la parole de Dieu? Comment pouvaient-ils à terme faire partie du royaume des cieux que Dieu promet? Et comment comprendre ce texte à la lumière de ce que Jésus lui-même a ordonné à chacun des apôtres avant son élévation au moment de l'ascension? Allez, faites de toutes les nations, pas des juifs, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Pierre a compris et il part immédiatement avec ses hommes. Conséquence extraordinaire, il y en a deux. Tout d'abord, Pierre qui rentre dans cette maison chez Corneille et il va écouter ce que Corneille lui dit. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre. C'est Corneille qui parle. Il veut en savoir davantage, entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il se met à la disposition de Pierre pour connaître le plan de Dieu. Comme d'autres avant lui, Étienne, Philippe, qui ont été amenés à parler à des étrangers, eh bien Pierre va parler. Et si vous relisez la deuxième partie de ce texte que Matthieu nous a lu, vous verrez que finalement, Pierre n'a fait que reprendre en tout et pour tout, tout le message du salut, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Allant même, parce qu'il ne peut pas faire autrement en voyant le don de l'Esprit qui est donné à ces païens, à les baptiser, à leur demander de rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu. Pour Corneille et ses amis, il nous est dit qu'il y avait beaucoup de monde dans cette maison. Il n'y avait pas que Corneille et ses proches, ses intimes, il y avait beaucoup de monde. La bonne nouvelle est annoncée, elle est entendue, elle est prise au sérieux. Pourquoi? Sans aucun doute, parce que c'est Corneille qui est là, le maître de la maison, que toute la maisonnée connaît ce Corneille. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un non seulement à qui l'on doit le respect, mais quelqu'un qui a écouté, obéi aux ordres que Dieu lui-même lui a présentés par l'ange. Alors un enseignement pour nous aujourd'hui. Il ressort deux choses. La première, elle concerne Dieu lui-même. Dieu aime tous les hommes. Il nous est dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire que tous les hommes puissent, à un moment ou l'autre de leur vie, entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'aucun, au moment où le Seigneur reviendra, ne puisse dire « Je n'ai jamais entendu parler de cela ». Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Aucune personne n'est étrangère à Dieu. Aucun étranger ne lui est indifférent. Si vous relisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout faisant partie du peuple d'Israël, qui ont été appelées et qui sont entrées de manière extraordinaire dans le plan de Dieu. J'en donnerai deux exemples. Rahab, la prostituée de la ville de Jéricho. Ruth, deux femmes étrangères. Vous remarquerez que ces deux femmes sont l'une comme l'autre dans la lignée des ascendants du Seigneur. Dieu ne ferme pas la porte à qui que ce soit. Il aime tout le monde. Et Pierre l'a compris. En entrant chez Corneille, il a compris qu'il pouvait parler, communier, partager tout ce qu'il avait reçu avec des païens. La deuxième, elle est pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de témoigner, de parler à ceux qui vous entourent. Avec tous les événements que nous vivons à travers le monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de peuples adorant d'autres dieux que ce soit les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, qui s'en prennent aux chrétiens, d'une manière ou d'une autre. Certains pourraient se dire, moi je ne veux pas me risquer à mourir pour ces gens-là. Je ne vais pas aller leur parler de Jésus-Christ. Je vais les laisser de côté, m'occuper plutôt de mes concitoyens. Non. Non. Si vous regardez un petit peu, si vous êtes attentif, si vous étiez pour certains d'entre vous présents jeudi soir, lorsque Clifford vous en a parlé, Dieu peut toucher à travers un témoignage même les plus rebelles ou les plus fanatiques de ceux qui sont opposés à l'Évangile, même des islamistes convaincus ou des djihadistes. Il suffit qu'ils soient en contact avec l'Évangile et que le Seigneur parle. Et le Seigneur parle. Alors ne faisons pas de favoritisme, ne faisons pas d'acception de personne, comme nous le rappelle l'apôtre Jacques. Approchons-nous de tous ceux que le Seigneur met sur notre route, y compris les démunis, les sans-logis, les migrants. Peut-être qu'à travers ceux qui sont venus de terres étrangères dans notre pays et que nous voyons bien trop souvent dans la rue à faire la mendicité. Il en est qui sont venus là parce que Dieu a un plan pour eux. Qui sait ? Ne fermons pas nos portes. La vraie religion, comme le dit Jacques, débouche sur un service, sur un don de soi pour l'autre. Et pour cela, il faut prendre le temps de parler, d'échanger, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Mais ce premier pas, si nous appliquons les commandements du Seigneur, et en particulier les deux premiers, ne devraient pas être trop difficiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le second, ton prochain, comme toi-même. Puisse notre Dieu nous donner de trouver à travers sa parole les mots justes, adéquats, pour toucher tous ceux qu'il met sur notre route. Amen.